Bienvenue dans le podcast Tita Libris. Nous y accueillons des ostéopathes, auteurs, pour nous parler de leurs pratiques professionnelles et d'écriture. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Ferru, ostéopathe et spécialiste de la prise en charge de la femme. Depuis 2007, Bernard anime des formations post-grade autour de trois axes: la grossesse, l'accouchement et postpartum, et la fertilité. Il intervient notamment comme formateur et à la demande de différents instituts de formation. En 2016, il publie aux éditions Tita un premier ouvrage, Ostéopathie et grossesse, puis Ostéopathie, accouchement et postpartum, en 2017, et Ostéopathie et fertilité, en mars 2022. Aujourd'hui, Bernard nous rend visite pour aborder son activité d'ostéopathe et ses thèmes de prédilection que nous évoquerons au détour de trois épisodes. Commençons par le commencement, l'approche ostéopathique de la fertilité. Et profitons d'un instant de fulcrum avec Bernard Ferru. Je suis Vladimir Sekelj, éditeur chez Tita Éditions, et je suis accompagné de Betsabé Mer, éditrice assistante. Bonjour Bernard Ferru, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour.
Bernard, tu exerces à Orgeval, en région parisienne, dans un cabinet de groupe. Dans ta salle de traitement, on trouve une table d'ostéo, un bébé et une colonne vertébrale bassin en plastique. Face à ta table, dans une salle lumineuse, tutoises les passants qui défilent sous tes fenêtres. Bernard, es-tu un ostéopathe heureux ?
Oui, très, bien sûr. Je crois qu'un ostéopathe doit l'être.
Quelle a été ta première rencontre avec l'ostéopathie ?
C'était un petit peu par hasard. Je sortais de mes études d'acupuncteur. J'étais devenu acupuncteur et j'ai été attiré par l'ostéopathie parce que je cherchais également d'autres solutions pour pouvoir répondre éventuellement aux symptômes des patients ou à leurs problématiques.
Et c'est comme ça, du coup, que tu es devenu ostéopathe, tu as enchaîné sur une formation d'ostéopathe ?
Oui, tout à fait. Après 4 ans de formation en temps partiel en acupuncture, puisqu'à l'époque j'étais kiné, puisque la plupart des ostéopathes, des acupuncteurs étaient kinés au départ, je me suis lancé dans 6 années d'ostéopathie à temps partiel, puisqu'à l'époque il n'existait que cela, au sein de l'IWGS, qui s'est appelé après le COS, voilà, qui est un collège ostéopathique, qui était un des plus grands à l'époque avec Atman.
Et comment tu définis l'ostéopathie ?
Ah, vaste question. En quelques mots, l'ostéopathie, c'est l'approche holistique d'un patient. Je suis très attaché au côté holistique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'essence même de la prise en charge individualisée, avec une globalité. Et l'ostéopathe n'est pas là pour traiter des symptômes, il est simplement là pour réharmoniser les organismes. Et puis après, on voit si les symptômes disparaissent ou pas. Les symptômes, c'est un peu comme des voyants sur un tableau de bord de voiture. Quand on dit au garagiste que le voyant rouge est allumé, il vous dit « vous inquiétez pas, je vais m'en occuper ». Si vous revenez le soir et que le garagiste vous dit « j'ai astiqué le voyant », vous allez lui dire « vous foutez de moi ». Et en fait, l'ostéopathie, c'est un petit peu ça, c'est qu'on va traiter, pas forcément sur le symptôme, qui n'est qu'un voyant.
C'est vrai que le terme holistique revient beaucoup dans ton livre « Ostéopathie et fertilité » qui est paru là en 2022. Pour l'avoir lu, je l'ai bien noté, je pense, une trentaine de fois à chaque fois. On sent que c'est un principe qui est vraiment important pour toi, quoi.
Oui, mais c'est même le principe de l'ostéopathie. C'est au-delà d'être important pour moi, ça devrait être important chez tous les ostéopathes. Or, à l'heure actuelle, l'enseignement de l'ostéopathie, à cause de la réglementation et du contrôle peut-être des instances nationales sur le développement de l'ostéopathie, est devenu quelque chose de très symptomatique et très médicalisé. L'essence même de l'ostéopathie, c'était la globalité sans restriction, de manière à prendre en charge les patients d'une manière très très individualisée.
Et pourquoi faire un livre sur la fertilité ?
Alors la fertilité, ça a toujours été mon dada professionnel. En fait, jeune ostéopathe, je me suis retrouvé avec une patiente qui était venue me voir, qui avait environ 24 ans à l'époque, et à cette époque-là, donc il y a plus de 30 ans, une femme qui n'arrivait pas à avoir un enfant à 24 ans, c'était déjà la panique à bord. Aujourd'hui, on est plutôt près de 40 ans, hein, socialement, mes habitudes et les modes de vie ont changé. Et puis, la prenant en charge, elle s'est retrouvée enceinte. Et en fait, j'ai trouvé ça très, très valorisant d'un point de vue professionnel, parce qu'il y avait un résultat vraiment effectif. Alors, je ne sais pas si j'y ai beaucoup participé, mais au moins, le hasard m'a peut-être servi. Ensuite, j'ai eu sa belle-sœur et qui s'est également retrouvée enceinte. Mais autrefois, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, parce que les femmes étaient plus jeunes, les caractères de stress étaient moins importants et il y avait surtout beaucoup moins de facteurs de pollution.
Et ce livre, Fertilité, c'est ton troisième, en fait ?
Oui.
tu avais déjà écrit un livre sur la grossesse et l'accouchement et le postpartum. C'est un peu un tiercé dans le désordre. Pourquoi c'est celui-là qui est sorti en dernier?
Alors, je ne regrette pas de l'avoir fait en dernier, même s'il n'y a pas de suite logique par rapport à la biologie. Simplement parce que même les années de Covid ou les quelques années de retard que j'ai pu prendre m'ont permis d'intégrer dans ce livre des chapitres très particuliers comme la toxinie que j'ai énormément développée pendant ces deux années de report. Et également, il y a quelques techniques ostéo-énergétiques que je n'aurais pas mis si le livre avait été fait un peu plus tôt, donc je ne regrette absolument pas. Et puis, j'ai commencé par la facilité, parce que la grossesse, c'est quelque chose d'assez simple, entre guillemets, bien sûr, à traiter en ostéopathie.
Et t'as vu une évolution dans ton travail d'écriture, ton travail d'auteur entre les trois, vu que fertilité est le dernier?
Oui, c'est plus facile. Le premier, on ne sait pas trop ce qu'on nous demande en tant qu'auteur quand on se lance dans une telle aventure. J'avais bien écrit quelques éléments comme mon mémoire éventuellement qui était déjà sur la grossesse, mais également... j'écris mes polis pour mes formations et les polis font quand même 150 pages en moyenne, donc j'avais déjà écrit quelques éléments. Mais se lancer dans l'édition d'un livre, c'est complètement différent. Il faut faire très attention à ce que l'on écrit, ça ne supporte pas l'à peu près et ça doit avoir un caractère très objectif de perfection.
En parlant de perfection, sur tes trois livres, il y a une particularité d'écriture. Les tests, les techniques sont rédigés de façon très très structurée avec un double niveau de lecture. Et puis un style direct de type recette de cuisine avec des verbes d'action. Pourquoi ce choix ?
Alors, c'est un choix que j'ai trouvé judicieux, qui m'a été suggéré par mon éditeur, qui permet d'avoir sur ce livre une vision très didactique des techniques et des tests pour se les approprier. Je suis un visuel et un kinesthésique principalement, et la notion des schémas de photos ou de choses très bien organisées et très synthétisées me paraît essentielle quant à l'acquisition de moyens ou d'outils ostéopathiques plutôt qu'un texte assez touffu et peu expressif. Il y a très peu d'auditifs donc qui se fient sur la lecture chez les ostéopathes.
Tu publies un livre sur la fertilité dont les mécanismes paraissent très organiques, alors que l'ostéopathie répond en général à des troubles fonctionnels. Que peut apporter l'ostéopathie sur les questions de fertilité ?
Alors, le paradoxe de ce livre, c'est que c'est de l'ostéopathie, mais surtout la part la plus importante dans la prise en charge de la fertilité, c'est l'émotionnel. L'émotionnel est le vecteur principal de parasitage de la fonctionnalité de reproduction chez la femme. On va, pour être très simple, on va imaginer que l'organisme, c'est à la fois un ordinateur qui est le cerveau, qui gère en fait un organisme. Cet organisme doit mettre en jeu tout un tas d'enchaînements physiologiques pour que la femme ait la capacité de se retrouver enceinte. J'ai pour habitude de dire que l'arbre de vie, ce que j'appelle l'arbre de vie, c'est utérus, trompe et ovaire, correspond en fait au cerveau, au deuxième cerveau de la femme. En fait, c'est la traduction matérielle de son être de femme, puisque le cerveau induit une fonctionnalité sur cette zone qui est très cyclique en plus, mais induit également tous les parasitages. Et c'est pas par hasard si les femmes ont des parasitages sur cette zone, puisqu'en fait, les troubles du cycle, les kystes et ainsi de suite, ne sont que des modifications de la régulation de motilité et surtout des tissus et surtout de la neurocrinie. La neurocrinie étant le système de communication entre le cerveau et le corps, c'est-à-dire qu'il inclut à la fois le niveau hormonal et le niveau neurovégétatif ou autonome.
Tu connais bien ton cours.
Je le répète des dizaines de fois dans l'année, 12 à 15 fois depuis 15 ans. Donc
pas que devant la glace en te rasant.
Non, je connais ça par cœur.
Donc tu parles beaucoup évidemment tu traites énormément de femmes, enfin tu prends en charge énormément de femmes. Pour la fertilité, est-ce que tu t'intéresses aussi, est-ce que ton livre s'intéresse aussi à la fertilité du point de vue masculin ?
Alors oui, un peu bien sûr, c'est beaucoup plus difficile. J'ai pris des patients en charge par rapport à ce problème de fertilité. Et je dirais que l'homme a un fonctionnement beaucoup plus simplexe ou simplet ou simple, je ne sais pas comment on peut le dire, mais l'interaction est beaucoup plus difficile. Il est remarquable qu'en France, on a à peu près 15% de couples qui ont des difficultés pour procréer ou du moins mettre en route une grossesse. Et sur ces 15% de couples, il n'y en a pas tout à fait la moitié, mais pas loin, qui en fait, où les deux partenaires ont des problèmes. C'est assez curieux, on a l'impression que les gens se regroupent par rapport à des difficultés. J'ai pas développé ça ou je ne me suis pas penché sur la question. Bien sûr, j'ai développé un petit chapitre concernant les hommes, parce que c'est une nécessité. Souvent, quand on reçoit les couples, sachant que plus de 40% ont des difficultés, les deux partenaires ont des difficultés, souvent ils demandent d'être pris en charge. Là, c'est beaucoup plus difficile, les résultats me paraissent moins probants. Évidemment, on se fie bien sûr au spermogramme et à sa qualité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un peu le baromètre de l'action qu'on peut avoir. Et malgré la prise en charge la plus holistique possible, il est quand même difficile de faire varier les spermogrammes. Alors, quelles en sont les raisons ? La réflexion m'amène à penser que le stress est un facteur important, la pollution est un facteur important. Et d'un point de vue émotionnel, le stress en fait partie, mais j'ai l'impression également que par rapport aux hommes que j'ai pu avoir il y a 30 ans maintenant en suivi et ceux que l'on a maintenant, ils sécrètent beaucoup moins de testostérone. Les spermogrammes du reste qui sont considérés comme normaux aujourd'hui étaient anormaux il y a 30 ans. Donc on a une perte de production de spermatozoïdes qui me paraît très importante par rapport à au non-machisme qui existe dans la société, les femmes prenant la place des hommes. C'est une vision qui n'est pas du tout misogyne, ça veut être un simple constat.
C'est pas politique.
Non.
D'accord, donc entre les hommes et les femmes, il y a toute une prise en charge. Est-ce que dans ton livre, tu proposes un protocole, vraiment un protocole de prise en charge de la fertilité ?
Alors oui, les hommes rentrent plus dans une prise en charge très holistique, naturelle, on va dire, pour un ostéopathe. Les femmes, oui, bien sûr, il y a un protocole, mais ce protocole est un mot que j'aime bien parce qu'il permet de cadrer les éléments et d'avoir les idées très claires. Le mot de protocole, je ne l'utilise jamais au sens verrouillé. C'est-à-dire que c'est un protocole ouvert qui, en fonction des cas, et on doit toujours s'adapter aux cas, et particulièrement dans la fertilité, en fonction des cas, on doit s'adapter. Et c'est comme si on se promène sur un chemin en forêt avec un itinéraire, l'itinéraire étant le protocole, et qu'on a envie ou besoin à certains moments de prendre des petits sentiers qui vont à droite ou à gauche pour aller explorer ou voir certains éléments. Et pour moi, c'est comme ça que ça doit être fait, parce qu'on doit toujours s'adapter à la patiente et au moment où elle est sur la table, même si on envisage de programmer quelque chose pour la séance suivante, c'est quand la patiente est posée sur la table que je décide d'orienter mon traitement de telle ou telle manière, malgré ce que j'avais imaginé. Pourquoi ? Parce qu'on doit toujours s'adapter pour apporter les fulcrums, les points d'appui les plus nécessaires au moment où elle est là, l'humain étant de l'instabilité permanente.
Mais il y a quand même, t'as une certaine ligne directrice qui reste en...
Alors oui, dans le suivi des consultations, le cheminement, on va dire, ou le protocole, dans un premier temps, je fais l'inventaire, c'est-à-dire que la première consultation en fertilité dans mon cabinet va durer 1h30. Pourquoi ? Parce qu'on doit passer beaucoup de temps avec un questionnaire relativement plus développé que dans les autres consultations. Et également, il y a beaucoup plus de tests. Donc, j'anticipe en prévoyant 1h30 de consultation au lieu d'une heure en moyenne. Et dans un premier temps, je vais toujours essayer de cadrer et de rééquilibrer l'organisme lui-même. C'est-à-dire qu'on va essayer déjà de libérer les verrous qui se sont installés, qui ne sont pas forcément verrouillés par l'émotionnel. Ça permet de déblayer un petit peu le terrain. Et à la consultation suivante, eh bien, soit je recommence en fonction des résultats qui ont pu exister par rapport à ce que j'avais fait, soit j'adapte ou je mets d'autres protocoles, d'autres techniques en place qui vont permettre en fait d'aller travailler sur différents niveaux comme le niveau émotionnel ou le niveau énergétique.
C'est vrai que quand il y a un couple qui pense à avoir un enfant et qui éprouve des difficultés, il ne va pas immédiatement penser à l'ostéopathie, malgré ce que tu nous décris, que voilà, il y a une possibilité de prise en charge. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaiterait consulter un ostéopathe dans ce cas-là, et quand consulter et que demander exactement en arrivant en consultation ?
Alors, dans les patientes ou les couples que l'on peut avoir, on va dire qu'il y a la plupart des gens viennent parce qu'ils sont en suivi médical de PMA, c'est-à-dire procréation médicalement assistée, ou simplement quelques-uns viennent avant d'entamer un traitement médical. Et j'ai même des patientes qui viennent avant de commencer à essayer de procréer pour essayer d'être équilibrées. Mais ce sont des gens qui connaissent très bien l'ostéopathie, celle-là, et qui s'y investissent déjà au départ. Voilà, quelques cas. Mais à l'heure actuelle, on a beaucoup plus de gens qui, en fait, sont déjà en traitement de PMA. Parce que ce sont des gens qui sont souvent autour de la quarantaine.
Et est-ce que tous les ostéopathes sont formés à ce type d'approche de prise en charge ?
Alors, sachant que c'est une prise en charge qui demande un holistisme, si le mot existe, à 100%, voire 110%, je ne pense pas qu'au départ, les jeunes ostéopathes qui sortent de l'école aient la capacité peut-être d'avoir tous les outils pour pouvoir les prendre en charge correctement. C'est au fil de la carrière et de l'évolution que l'on doit acquérir ces différents éléments. Dans la vie d'un ostéopathe, il y a trois parties. Il y a la partie de l'acquisition, qui est celle où on est à l'école. C'est comme un musicien qui sort du conservatoire et qui va apprendre à jouer les partitions et à reconnaître les notes. Et puis, il y a la deuxième partie qui est le développement, où tous les ostéopathes se doivent, ou en principe le font, aller voir les anciens ostéopathes pour acquérir de nouveaux outils, écouter l'expérience et beaucoup d'autres éléments qui vont enrichir leur pratique. Ils ne doivent pas singer un ostéopathe, ils doivent se développer en fonction d'eux-mêmes. Et puis, la fin de carrière d'un ostéopathe, s'il s'en sent le courage ou s'il pense avoir développé certains éléments, il doit rentrer dans la transmission, parce que l'ostéopathie s'est toujours transmise par la transmission. Et plus la transmission de contact réel humain que de la transmission en vidéo. Parce qu'il y a un ressenti qu'il est nécessaire vraiment d'expliquer, de corriger, d'apprécier, de comparer.
Alors excuse-moi, mais...
J'ai pas répondu à la question.
Si, t'as répondu à la question. Mais comme t'es vraiment dans la transmission avec les ouvrages que t'as sortis et les formations que tu donnes, est-ce que t'es vraiment en fin de carrière ?
Oui, je suis même à la retraite, mais je continue à travailler. L'ostéopathie est en quelque sorte une drogue, et je vois pas ce que je vais faire à ne rien faire, à regarder la télé ou aller acheter ma baguette sans sel à la boulangerie. Donc, non, je me sens encore suffisamment en forme. Le jour où j'aurai l'impression que je ne peux plus, ou ça ne me passionnera plus, mais je sais pas si ça arrivera, j'arrêterai. Comme beaucoup de mes collègues de ma génération, tous ceux qui sont dans la transmission le font jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout d'eux-mêmes souvent.
Quel conseil tu donnerais justement, en parlant de transmission, à un praticien, éventuellement un jeune praticien, mais je ne veux pas cibler, qui se retrouve pour la première fois devant ce type de consultation, ce type de demande ?
Alors, il est libre de sa pratique, mais souvent j'explique aux jeunes praticiens que s'ils ne se sentent pas de niveau ou s'ils ne le sentent pas, ils ne le font pas. C'est-à-dire que quelques praticiens que j'ai pu voir ou rencontrer dans ma carrière des jeunes praticiens, même s'ils ont suivi les formations, quelquefois m'envoient leurs patientes quand géographiquement c'est possible, bien sûr. Pour ceux qui ne se sentent pas assez développés dans ce domaine, mais il faut quand même générer un apprentissage. Déjà, c'est de acquérir les connaissances de base médicales nécessaires pour savoir de quoi on parle. Après, de prendre des renseignements au-dessus des formations ou éventuellement d'acheter des livres pour essayer d'enrichir énormément sa pratique. Quand j'ai commencé, personne ne faisait ça. Enfin, je suis pas un pionnier, mais je me suis lancé là-dedans parce que pour moi, c'était le véritable défi ostéopathique. Et entre les prises en charge que je faisais il y a 30 ans et maintenant, c'est le jour et la nuit, hein. Voilà, on peut le dire comme ça, par rapport au nombre d'outils que j'utilise.
Bon, je vais juste vérifier que tu connais bien ton cours, même si on a vu que t'as l'air de quand même bien le maîtriser. Tu nous as parlé déjà de la consultation type pour un motif de fertilité, comment tu la structures, etc. Dans ton livre, tu abordes la règle des 7 P.
Oui.
C'est quoi ?
Alors, la règle des 7 P, ça, c'est de l'ostéopathie pure. Elle ne s'applique pas spécialement qu'à la fertilité. La règle des 7 P, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel dans la pratique ostéopathique. Alors, il faut toujours rendre à César ce qui est à César. Et en fait, au départ, c'est Eric Simon et Danny Hens qui, dans une formation sur les bébés que j'avais suivi avec eux, j'avais eu ce plaisir, parlaient de la règle des 5 P. Et en fait, j'en ai ajouté deux. Pourquoi ? Pas parce qu'il y en a deux qui m'ont paru un peu plus complémentaires. C'est pas pour négativer ce qui avait été fait au préalable. Je cite toujours mes sources au départ. Donc dans la règle des 7 P, en fait, c'est la manière de pratiquer pour un ostéopathe. Et pour moi, cette manière, elle est essentielle pour être le plus efficient possible. Donc le premier P, c'est la position. C'est-à-dire que l'ostéopathe doit physiquement être très bien installé avec des fulcrums, c'est-à-dire des points d'appui qui soient sur la table, sur les genoux de la patiente ou ainsi de suite, pour être très très confort. Si en travaillant on tétanise, c'est que la position n'est pas bonne. Le deuxième P, c'est la présence, c'est-à-dire que l'on doit tourner ses organes d'essence vers la patiente de manière à ne plus être parasité par les perceptions périphériques qui entourent le cabinet, la pièce ou ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'un certain centrage qui est absolument nécessaire pour pouvoir répondre à l'information des tissus et surtout à leur motilité. Motilité qui est très fine et qui est peu perceptible si on n'est pas tout à fait en présence. Le troisième, c'est la protection. Pourquoi ? Parce que tout individu possède un rayonnement énergétique. Rayonnement énergétique qui est à la fois d'infrarouge, c'est-à-dire de chaleur, ou électromagnétique, parce que nous avons des charges électriques. Et il n'est pas question que les patients se déchargent sur nous, ou éventuellement qu'ils nous envoient ce qu'on appelle de l'énergie perverse. Parce que le praticien est malade derrière. Mais malheureusement, la protection, elle ne s'apprend qu'au travers du fait d'avoir déjà été envahi. Et vous avez des patients qui ont un rayonnement très négatif et le praticien est malade derrière. Et il faut savoir les identifier, savoir s'en protéger. Alors comment s'en protéger ? C'est compliqué parce que c'est propre à chacun, mais il faut avoir été mouillé pour savoir se protéger de la pluie. Donc c'est un peu ce que je pourrais dire. Au-delà de la protection, il y a la perception. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est bien installé, qu'on s'est mis en présence, qu'on a tourné ses organes d'essence vers la patiente, qu'on s'est protégé comme on peut en fonction de ce que l'on est comme praticien, il y a la perception qui est la réception de l'information de la motilité tissulaire, c'est-à-dire du mouvement du tissu induit par le système nerveux neurovégétatif, c'est-à-dire le système autonome. Après, une fois qu'on a cette perception, on va pouvoir jouer avec des contacts particuliers qui vont être plus ou moins appuyés. Et dans ces contacts, en fait, on a trois types de travail tissulaire. Le travail par compression. Compression, c'est une technique d'Anne Wals, qui était une disciple de Sutherland, qui décrit un travail où on met en aisance de mobilité et elle laisse le tissu travailler. L'autre travail tissulaire qu'on peut avoir, c'est la compaction, où là, on va aller dans un sens fonctionnel tridimensionnel avec les deux mains vers des zones de densité sur lesquelles on va effectuer un stacking, c'est-à-dire où on va se retrouver avec un point neutre, être attiré par une autre zone de densité, refaire un stacking jusqu'au fameux still point qui, lui, doit repartir tout seul quand on ne perçoit plus d'autres zones de densité plus ou moins à distance de l'endroit où l'on est. Il y a après l'induction et la mise en œuvre de la même chose que dans la compaction, sauf que l'on fait à distance comme un marionnettiste qui va utiliser des ficelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est qu'on a une tension de surface au niveau du tissu. Et si on essaye de passer à travers la tension de surface, eh bien on ne va pas pouvoir aller travailler puisqu'on va tout bloquer simplement. Et puis après, il y a l'intention. Alors l'intention, c'est pas du tout quelque chose qui est en principe enseigné dans les écoles d'ostéopathie. Quelque chose que j'ai développé, alors d'autres ostéopathes l'utilisent bien sûr. L'intention, vous avez simplement un contact avec les mains et vous faites le travail, vous suivez le tissu purement mentalement. Ça marche très très bien. C'est pas agressif du tout, on n'a pas besoin de rentrer dans les tissus. Et puis le nec plus ultra, peut-être, ou le plus fin du travail tissulaire, c'est les radiations. Alors là, on travaille par rayonnement simplement. Travail un petit peu différent que celui du travail où on est en contact avec le tissu. Mais on va jouer sur une répartition ou dispersion ou réappropriation d'énergie de rayonnement de la patiente. Le dernier DP, c'est la patience. Pourquoi la patience ? Eh bien parce qu'en fait, c'est le tissu qui décide de son temps de libération. Et la patience, ou le temps où le tissu va finir par se libérer, sera d'autant moins long que les 6 premiers P auront été respectés. Voilà.
C'est beaucoup plus complexe qu'en psychologie, où tu connais la règle des 5 P ?
Non.
C'est pourquoi, 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 pourquoi.
Oui, moi ils sont un peu différents. Mais...
Alors, tu présentes de nombreux tests ostéopathiques. Sais-tu combien sont décrits dans ce livre ? Attention, parce que Bethsabée les a comptés.
Mmh. Alors, j'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas, plus d'une quarantaine peut-être ?
Ah oui, on est à 109.
À 109 tests, ah oui, j'imaginais pas. Et encore, ils sont, en fait, ce sont des tests qui ont un rapport avec la fertilité, plus ou moins direct ou vraiment direct. Mais il existe beaucoup d'autres tests en ostéopathie. Je n'ai pas mis tous les tests que je connaissais dans ce livre.
Et dans la vraie vie, dans une séance pour la fertilité, tu en pratiques combien en moyenne ?
Alors, dans mes tests, il y a des tests que j'appelle, ça c'est mon dada ostéopathique, c'est mon truc, j'appelle ça les tests essentiels. Ces tests essentiels sont des tests mécaniques, purement mécaniques, qui, en fait, vont me permettre de voir l'état holistique, en faisant la synthèse de ces tests, des patientes que je peux avoir sur la table, ou des patients que je peux avoir sur la table. Et, en fait, ces tests vont me permettre, en fin de consultation, parce que ce sont les 5 seuls tests que je refais, vont me permettre de voir s'il s'est passé quelque chose. Et ces tests, en fait, ont une interprétation par rapport au drainage des liquides, surtout de l'organisme. Pourquoi ? Parce que Steele a défini la règle de l'artère. Alors, je ne sais pas comment a été traduit sa phrase de l'américain en français, mais pour moi, c'est plus la règle des tuyaux ou des liquides. Pourquoi ? Parce que quand les liquides sont bien drainés, le corps est bien oxygéné, bien sûr, parce que le niveau artériel est efficient, mais également, il y a un très gros déchet des toxines et il n'y a aucune stagnation, donc aucune compression tissulaire. Et ces tests essentiels me permettent, dans toutes mes consultations, quelles qu'elles soient, de me rassurer en voyant s'il y a eu une modification. Et puis à la consultation suivante, je refais systématiquement ces tests et je vois où en est la patiente. Soit ça s'est reverrouillé, soit ça continue à se libérer, soit ça s'est maintenu. Et ça va bien sûr guider ma mise en place de la consultation suivante, évidemment. Et c'est une véritable référence. Et ces tests, si je peux les citer... Il y a le test d'inhibition à partir du sacrum où on va essayer de trouver les dysfonctions majeures au niveau de l'organisme. Il y a le test des liquides de l'abdomen avec le test des quatre caissons qui permettent de voir la répartition des liquides, donc l'efficacité du couple physiologique entre le thorax et l'abdomen. Il y a les tests des reins qui vont permettre de voir l'engorgement potentiel d'un rein ou des deux et surtout d'avoir une idée très précise de l'état toxinique de l'organe, donc de sa saturation. Il y a le test de l'orifice supérieur du thorax qui va donner en fait une indication quant à la profondeur des tensions au niveau du thorax qui guidera bien sûr la mise en œuvre des techniques, savoir si on va en profondeur ou pas, si c'est nécessaire ou pas. Et puis un test très important, celui des premières et deuxièmes côtes, qui est un test qui donne des indications à la fois sur le thorax, mais les premières côtes vont donner des indications sur toute la zone sous-diaphragmatique.
Tu introduis, t'en as parlé un peu tout à l'heure, la notion de charge émotionnelle. Est-ce que tu peux développer un peu plus ?
Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'était l'ordinateur, donc le cerveau, donc l'émotionnel, qui allait guider la régulation de l'organisme. Mais ce cerveau est relié au monde extérieur par nos cinq organes des sens. Sens et ces organes des sens, on n'a pas conscience du milieu extérieur. Donc, on reçoit des stimuli. De ces stimuli que l'on reçoit, on fait des synthèses qui vont nous mettre dans des conditions de perception de bonheur, de peur, de rancœur, de colère, de chagrin, de désespoir, et ainsi de suite. Et ça va avoir une incidence d'adaptation sur des régulations neurovégétatives et hormonales, donc neurocliniques. Cet émotionnel, il va influer d'une manière permanente ou transitoire certains fonctionnements de motilité organique parce qu'il existe des projections en fonction des bugs informatiques que le cerveau va développer par rapport au vécu des patients. On va avoir des bugs informatiques sur certains organes. La zone pelvienne en est une qui est très très ciblée. Chez les hommes, on n'a pas tout à fait les mêmes problèmes. La zone de projection chez l'homme est plus la zone du cœur, simplement. Donc cette projection mentale va générer la plupart du temps, par rapport aux événements qui se sont passés, une récurrence mentale. Et là, je tombe dans l'explication des notions de rémanence, résilience et récurrence. La récurrence mentale, c'est quand le côté émotionnel périphérique revient toujours à la charge et réinduit le verrouillage d'un organisme par un parasitage de neurocrinie. On a également un système de résilience. Résilience, ça veut dire que l'ordinateur a impacté certains organes, par exemple, en dysfonction majeure, qui, par rapport aux chaînes de dysfonction, vont donner des dysfonctions mineures sur lesquelles souvent il y a les symptômes. Et là, il faudra traiter les dysfonctions majeures. À partir du moment où on traite les dysfonctions majeures, à partir du moment où il n'y a pas de récurrence mentale, ça va se libérer. Et puis, il y a les rémanences, qui sont en fait les symptômes qui restent quand l'origine du problème a disparu, le voyant est resté allumé. Et là, c'est très facile à traiter, on le fait en symptomatique locale et ça marche très bien. Pour ce qui est des récurrences mentales, en fait, on a un héritage dans la lignée ancestrale qui fait qu'on est avec certaines blessures de l'âme ou certains éléments qui nous modèlent. On a une génétique particulière et puis on a un vécu avec le hasard de la vie qui va induire chez certaines personnes quelques particularités. Ces particularités peuvent être bloquantes par rapport aux expériences ou à l'existant. Et entre autres, dans le cas de la fertilité, c'est un des éléments les plus importants. Cet émotionnel, il est abordable en ostéopathie par différentes techniques et différents éléments. Ça devient relativement complexe par rapport à l'enseignement de base.
Alors pour préparer ce podcast, on a invité nos lecteurs à te poser une question. Donc je vais te poser la question de Jérémy. C'est un sujet qui a déjà un peu été abordé, mais disons que la question est un peu plus précise. Il se demande s'il existe un protocole scientifique de prise en charge ostéopathique de la fertilité. Idem pour la grossesse et le postpartum, ou est-ce que c'est seulement empirique ?
Mon passé d'acupuncteur me laisse dans une certaine philosophie de l'approche de l'humain. En médecine chinoise, il y a 3000 ans, les Chinois n'avaient pas d'appareil radio, ne faisaient pas de dissection, ils ne savaient pas trop ce qu'il y avait à l'intérieur du corps. Et ils ont simplement, par empirisme, imaginé, découvert, palpé, observé, et ils ont réussi à trouver le fonctionnement énergétique du corps humain avec toute sa complexité. L'ostéopathie, c'est pas quelque chose qui est pour moi est protocolaire. Donc c'est avec un certain empirisme que je parle de tous ces éléments, parce que pour moi l'ostéopathie doit être empirique et surtout s'adapter à quelque chose. Suivre un protocole, c'est être enfermé sur un chemin. Il ne faut pas hésiter à faire des digressions. Le livre est fait pour avoir un cheminement, mais avec beaucoup d'outils, beaucoup de techniques qu'on peut utiliser, comme les tests. Mais il faut en fait bien imaginer qu'il faut toujours se réadapter. Et ce qui est important, c'est le résultat. Il est très dur, c'est le problème de l'ostéopathie aujourd'hui, c'est qu'on demande des preuves scientifiques de l'efficacité de l'ostéopathie. Or, pour mettre des gens en statistique, c'est impossible. En ostéopathie, on prend les gens en individuel. Donc quand on regroupe les gens, on est déjà dans l'erreur. Et puis sachant qu'on est quand même dans l'impalpable ou le peu perceptible par rapport à quelque chose de très cartésien, eh bien il est difficile de prouver avec une rigueur scientifique. Pour développer un petit peu, on n'est jamais vraiment sûr que l'ostéopathe a une action dans la prise en charge de la patiente et dans sa réussite de se retrouver enceinte. Je dis toujours à mes patientes, ce sera votre réussite, c'est pas la mienne. Moi, j'essaie simplement de vous aider à mieux fonctionner. On ne fait pas de miracle en ostéopathie, on essaie simplement de poser les fulcrums pour que les gens puissent se réharmoniser de manière à ce que la physiologie puisse s'exprimer. Est-ce que j'ai répondu à toute la question ?
Oui, je crois. Enfin, que...
Je sais pas, parce que des fois, je dérive. Et...
Oui, bah, chaque prise en charge est individuelle. Justement, est-ce qu'il y a une séance ou une prise en charge qui t'a particulièrement marqué, dont le résultat t'a particulièrement, ému ou qui ressort de ton expérience classique, entre guillemets ?
Alors en fait, quand une patiente réussit à mettre en route une grossesse, on est très content. Je saute pas de joie, je suis resté humble. On a le caractère premier d'un ostéopathe, c'est l'humilité, et particulièrement dans le domaine de la fertilité. On peut pas s'arroger le résultat de telle ou telle mise en route d'une grossesse. Pour moi, ça c'est impensable complètement. Oui, de l'émotionnel, on en a. Des fois, on est très content, bien sûr, parce qu'on a l'impression d'avoir tout donné. Et des fois, des patientes se retrouvent enceintes et des fois, on a l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Mais même le fulcrum du praticien dans le cabinet, le fait qu'elle vienne, ou l'effet placebo, est un effet très important chez l'humain. Mais il n'y a pas que du placebo, parce que sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps de travailler dans ce domaine.
Donc, pas une séance en particulier ?
J'ai pas... En fait, j'essaye toujours, en travaillant, de ne pas être dans l'empathie du tout, et je conseille surtout ça à mes collègues, c'est quelquefois difficile pour certains. L'empathie, vous sombrez avec la personne. En fait, il faut être dans la bienveillance absolue, il faut apporter le réconfort, l'assistance, l'amitié potentiellement, mais me souvenir d'une séance ou quelque chose de particulier, oui, bien sûr, il y a certaines fois, mais c'est subtil à expliquer, c'est vraiment un ressenti très profond, où il y a certaines fois, en travaillant sur une patiente avec une impaction émotionnelle, où d'un seul coup, on sent que le système se libère, mais je ne le dis jamais à la patiente, mais le fait est qu'il y a un ressenti qui est très très puissant quelquefois.
Et tu as pas, parce que là on parle de patiente forcément par rapport à la fertilité, t'as pas un mari qui est venu te voir une fois pour dire dis donc ça marche pas mais elle passe entre tes mains et bouffe deux fois elle tombe enceinte? Non, t'as pas eu des problèmes?
Ah non, absolument pas. La place du mari est souvent très particulière dans les couples et c'est assez intéressant à observer. Des fois, les femmes viennent seules, les maris veulent pas venir, elles doivent se débrouiller, c'est leur problème, comme si l'homme n'était pas investi. Et puis, des fois, il y a des couples fusionnels. Et les couples fusionnels, je les sépare, parce qu'il y en a un qui pollue l'autre forcément. Il y a un inconscient de non-dit par rapport à la culpabilité sur la femme, par exemple, si elle a des difficultés, même si le mari est très prévenant, et ça la gêne énormément. Donc, je leur dis pas directement qu'il faut venir séparément. Je m'arrange pour lui redonner un rendez-vous à la patiente, si c'est elle que je suis, un moment donné où le mari ne peut pas venir. C'est fourbe, peut-être, mais c'est pour moi dans l'efficacité, parce que c'est plus facile de travailler sur un organisme quand on est dans la bulle entre le praticien et la patiente, alors que s'il y a une tierce personne dans la pièce, c'est très difficile parce qu'elle est parasitante ou polluante, surtout si elle a un côté affectif avec la patiente. Donc souvent, j'essaye d'éloigner les mères des filles, enfin âgées, bien sûr, les couples, bien sûr. C'est plus facile. Et au cabinet, avec ma collègue Eugénie, on ne prend plus du tout de stagiaires parce que c'est pas loin quand on travaille. Quand on travaille dans la finesse de l'émotionnel, c'est très parasitant, donc on ne le fait plus. Voilà.
C'était l'astuce du jour de Bernard Faux.
Je ne sais pas si c'est une astuce, mais on pratique comme ça en tous les cas dans mon cabinet. Voilà.
Bernard, nous demandons à nos invités, de décrire la relation qu'ils ont avec leurs mains en tant qu'ostéopathe sur un métier manuel. Comment est-ce que tu perçois tes mains? Ou comment est-ce que tu les qualifies?
En fait, je ne les perçois pas. Quand je travaille, je suis dans le mental pur. Et la main, elle suit le mouvement du tissu. La main n'est qu'un outil, alors il a son utilité, parce que après, sinon ça devient peut-être un petit peu plus compliqué, parce que le propre de l'ostéopathie, quelles que soient les techniques utilisées, c'est de poser les bons fulcrums qui vont bien pour que les tissus puissent se libérer. Mes mains, je les trouve pas magiques. Pour moi, c'est le prolongement de l'esprit. Mais je suis pas le seul, peut-être, à penser ça.
Très bien, merci pour cette réponse. Merci Bernard Ferru d'être venu et cet épisode qui arrive à sa fin.
Oui, merci Bernard Ferru d'être venu.
Merci à vous, c'est gentil. J'espère que ça pourra servir à beaucoup d'ostéopathes et les quelques propos que j'ai pu évoquer ici.
Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Bernard Ferru. Je remercie l'agence Kawalearn pour la technique, Betsabe pour la préparation de cet épisode. Le prochain épisode sera consacré à la grossesse, suite logique de la fertilité, et ce sera avec Bernard Ferru. Si vous avez aimé cet épisode, encouragez-nous à en produire plein d'autres. Abonnez-vous, partagez avec vos amis, laissez un commentaire et ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, le prochain numéro, vous pouvez retrouver les livres de Bernard Ferru dans toutes les librairies et sur Titashop.